Donc, on voudrait commencer assez fort cette implantation en réfléchissant à ce que c'est que l'Église. Et donc, parce que j'ai... Okay. On voudrait réfléchir à ce que c'est que l'Église. Nous allons faire une série de prédications dans le livre d'Éphésiens. Le titre de la série, c'est « L'Église de Dieu ». Vous avez vu? L'Église de Dieu. Et on va voir pourquoi c'est l'Église de Dieu. Et au fur et à mesure des prédications qu'on va faire, on va répondre à au moins trois grandes questions. Elle vient d'où, l'Église? Elle ressemble à quoi, l'Église? Et troisièmement, elle vit comment, l'Église? Et chacune de ces choses-là doit nourrir notre façon d'être l'Église, de savoir notre identité et de savoir comment on doit vivre. Qu'est-ce qui doit driver notre vie au quotidien? Et donc, ce matin, on va commencer avec Éphésiens chapitre 1, des versets 1 à 14. Et j'ai appelé cette première prédication l'Église, une Église bénie. Une Église bénie. Et donc, il y a Sonia qui dit... Yes, amen. Je vous propose de lire déjà, premièrement, Éphésiens, chapitre 1, des versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est la parole de Dieu. Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Église de Dieu est bénie. Et donc, l'Église, le refuge, est bénie. Et alors, quand je dis ça, je m'attends à ce que vous rigoliez un petit peu. Ah, Tantine Pierrette a rigolé. Merci beaucoup. J'espère que tu as rigolé pour les mêmes raisons. C'est assez bizarre. Je veux dire, si on pense que nous sommes bénis, ce serait quand même... si on sort et qu'on dit ça à quelqu'un, ah, quelqu'un peut dire, en quoi êtes-vous bénis? Vous voyez, on est quelques-uns, on est rassemblés dans un salon, ok? On est dans un salon. On pourrait s'imaginer quelque chose de plus confortable et là, on se dirait, ah, là, on est béni. Et même mieux encore, vous voyez, on est peut-être une vingtaine, un peu plus peut-être, et pourtant, Shell a 60 000 habitants. Et on pourrait se dire, en quoi sommes-nous bénis d'être une vingtaine parmi 60 000? Mieux encore, si on regarde à nos situations personnelles, on peut, si chacun vient ici et dit les difficultés par lesquelles il passe ou elle passe, on pourrait encore se dire, ah ouais, on n'est pas vraiment béni. Hein. On n'est pas. Et encore, si on, est-ce que nous sommes la crème de Shell, les plus intelligents, les plus riches, les plus influents? Est-ce qu'on est ça? Pas vraiment. Mais s'il y a une chose que ce texte-ci affirme avec force, c'est qu'en tant qu'Église, nous sommes bénis. Et la bénédiction dont il est question nous touche de façon très personnelle. Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'une bénédiction balancée à la volée comme ça pour tout le monde. C'est une bénédiction qui s'applique à chacun de nous. Je veux dire que, Néphéra, tu es béni. Et je veux dire que, Jérémie, tu es béni. Vous voyez, c'est pas juste une, la bénédiction dont il est question, c'est pas juste l'Église est bénie. Non, c'est chaque membre de l'Église qui est béni. Trois points pour étudier notre texte. Nous sommes bénis par le Père. On va voir ça dans les versets 4 à 6. Nous sommes bénis par le Fils. On va voir ça des versets 7 à 10. Et on va voir aussi que nous sommes bénis par le Saint-Esprit, dans les versets 11 à 14. Et quand on voit ça, on voit tout, on voit la Trinité, et on imagine que Dieu, dans la force de son être, de la Trinité, nous bénit. C'est-à-dire que ce que Dieu est, s'emploie à nous bénir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on ne peut espérer aucune plus grande bénédiction que ce qu'on va entendre ici. Mais avant de regarder le premier point, regardez le verset 3. Et il y a ici un petit cercle vertueux de bénédiction. Nous sommes appelés à bénir Dieu parce qu'il nous a bénis. Regardez, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction? Vous voyez, nous sommes bénis pour bénir. Et c'est toute l'existence de l'Église, le refuge. Reconnaître que nous sommes bénis et vivre pour bénir Dieu, pour que tout ce que nous faisons, pour que tout ce que nous sommes bénisse le Seigneur. Mais alors, il me semble, frères et sœurs, que c'est assez facile de bénir quelqu'un qui nous a fait, de bénir quelqu'un qui nous a fait du bien. Hein, je veux dire, si quelqu'un vous rend un grand service, vous parlez de lui avec éloge de façon très naturelle. On ne se sent pas forcé de parler de la personne en bien. Okay? Et donc, quand on va voir les bonnes choses que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on le bénisse. Mais c'est quoi bénir Dieu? C'est le louer, chanter à sa gloire, célébrer son nom, lui obéir et nous engager dans son projet, celui d'avoir davantage de personnes qui viennent à l'église, le refuge. Pourquoi? Manger, jouer, s'amuser? Non, pour le bénir. Béni pour bénir. Lorsqu'une personne nous a fait du bien, on n'a pas de difficulté à le remercier. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et donc j'ai envie de dire oui, gloire, honneur et louange à son nom, aujourd'hui et à jamais. Parlons maintenant, d'abord, avant de voir les bénédictions en soi, parlons maintenant de la nature des bénédictions, ok? C'est quoi la nature de ces bénédictions-là? Et donc la première bénédiction, toujours dans le verset 3, c'est que les bénédictions de Dieu sont spirituelles. Généralement, frères et sœurs, lorsqu'on parle de bénédictions accordées du Seigneur, on a tendance à imaginer des bénédictions matérielles. Une voiture, un nouveau travail, un amoureux, des enfants. Voilà, on a tendance à imaginer le matériel. Mais ici, l'apôtre Paul dit que les bénédictions dont nous sommes bénis et pour lesquelles nous devons bénir Dieu sont spirituelles. C'est-à-dire qu'elles ne se voient pas forcément à l'œil nu. Même avec une loupe, on aurait du mal à les voir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Au contraire, elles existent, elles sont spirituelles parce qu'elles touchent à quoi? Elles touchent à notre salut, elles sont spirituelles parce que ce sont des bénédictions qui engagent notre destinée éternelle. Ce sont ces bénédictions-là qui déterminent ce que nous sommes et ce que nous allons être. Ça touche à notre salut. Ça ne se voit pas, mais ça fait de nous les gens les plus riches et les plus aisés du monde. Dans les bénédictions spirituelles du Seigneur, nous sommes plus riches que Bill Gates et même Elon Musk, et même les deux réunis. La deuxième chose qu'on voit, c'est que ces bénédictions-là sont dans les lieux célestes. Alors, c'est davantage clair, hein? C'est-à-dire, les bénédictions ne sont pas sur la terre spécialement, ni dans un compte bancaire, ni dans un parking, mais elles sont dans les lieux célestes. Ah, quel autre meilleur endroit pourriez-vous trouver pour garder ce que vous avez de plus précieux, si ce n'est dans le ciel? Les lieux célestes ne passeront jamais. Les voleurs, les rouilles, les termites ne pourront jamais détruire nos bénédictions puisqu'elles sont dans le ciel. Est-ce qu'on vous a déjà confié quelque chose de grande valeur dont votre vie en dépend? Alors moi, je me souviens qu'au Cameroun, quand un enfant part, quand il a le bac et qu'il doit quitter la maison familiale et qu'il part à la fac, par exemple, on lui donne son acte de naissance. Alors, au Cameroun, c'est produit un seul exemplaire. Il n'y en a pas d'autre. Un seul exemplaire. Et donc, on lui donne son acte de naissance. Et quand on lui donne ça, on lui explique pendant des heures et des heures l'importance de ce que c'est. Et quand il tient son acte de naissance, mais il le garde jalousement. Il le défendrait auprès de sa vie même. Parce que ça détermine un petit peu son identité. J'ai souvent raconté l'histoire de quelque chose que j'ai transporté au Cameroun une fois et qui avait une grande valeur pour nous. Ah, je peux vous dire que c'était dans mon trolley, dans l'avion. Partout où mon trolley était, je devais avoir partout où j'étais, mon trolley devait être avec moi. Et même dans l'avion, à un moment donné, la femme de Air France est venue me dire qu'il n'y avait plus de place en haut là. Et elle m'a proposé d'amener mon trolley en première classe. Je lui ai dit, si il y a la place pour moi en première classe, j'y vais. Mais s'il n'y a pas de place pour moi, no way. Et je n'y vais pas. Et même quand je suis arrivé au Cameroun, alors il y a un oncle de grâce était venu m'accueillir. Il est colonel dans l'armée, donc c'est très haut. Et il est venu avec deux gendarmes. Et il y en a un qui... Ils avaient des armes. Hein. Il y en a un qui m'a demandé, est-ce que je peux prendre ton trolley? Je lui ai dit, non, ça va. Je préférais moi-même garder ce qui était précieux pour moi. Et frères et sœurs, ce qu'on voit ici, c'est que les bénédictions que nous avons, il n'y a pas de stress sur nous de devoir tenir ça et garder en se disant, si ça tombe et ça se casse, on est mort. Absolument pas de pression. Elles sont dans le ciel et gardées en lieu sûr. Et la troisième chose qu'on voit, c'est que ces bénédictions sont en Christ. Ces bénédictions sont en Christ. Et c'est la caractéristique principale des bénédictions qu'on voit, qu'on a vu dans le texte. Tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qu'il fait de nous, il l'a fait en Christ. Personne de nous ne l'a mérité. D'ailleurs, si vous regardez la suite du texte, vous verrez que dans tous les versets, dans les 14 versets qu'on a lus, il est question du Christ au moins 15 fois. C'est dire que tout est en Christ. Vous connaissez sûrement l'histoire du déluge et de l'arche de Noé. Hein? Dieu a dit à Noé, tu entres dans l'arche et c'est là-dedans que tu seras protégé. En dehors de l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? Malédiction, de l'eau, le jugement de Dieu. Et Dieu a dit à Noé, tant que tu seras dans l'arche, tu seras protégé. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Paul nous dit quoi? Pas de bénédiction en dehors du Christ, mais toute bénédiction. En qui? En Christ. En Christ. Maintenant, on a regardé un peu la nature. On a regardé un peu le cadeau, le papier cadeau. On a vu que c'est beau. Ça donne déjà l'eau à la bouche. Maintenant, il faut ouvrir le cadeau et voir ce qu'il y a dedans. Et donc, premièrement, nous sommes bénis par le Père. Et donc, on voit dans les premiers versets, on voit la première bénédiction qui arrive, c'est que nous sommes choisis ou encore élus par Dieu. On a ça au verset 4. Super. En lui, Dieu nous a choisis. Dans d'autres versions, c'est Dieu nous a élus avant la création du monde. Alors, Paul dit que avant la création du monde, on a été élus et choisis. C'est-à-dire qu'avant même que le premier grain de poussière ne soit formé, avant que la première lumière ne jaillisse dans l'univers, Dieu nous a choisis pour nous aimer. Il a fait le choix de nous aimer. Et il ne nous a pas choisis de façon hasardeuse, comme on pourrait envoyer la main dans un sac de riz et se dire, bon, bah, très bien, c'est ces grandes riz-là qui sont sorties. Non, il a choisi Marguerite. Ouais. C'est-à-dire qu'il a appelé chacun de nos noms. Il nous a aimés avant ça, avant même que le monde n'existe. Il nous a aimés et nous a choisis de façon claire, de façon personnelle. Ce n'est pas juste à la volée comme ça. C'est chacun de nous. Quel privilège. Quelle bénédiction. Quel grand cadeau. Ça contraste un petit peu avec ce qu'on peut vivre dans la société et qui nous frustre souvent. La plupart des relations humaines sont fondées un peu sur le mérite. On choisit cet homme-là comme époux. Je pense que si on demande à Grâce pourquoi elle m'a choisi comme mari, ça ne sera pas pour rien. Moi, je l'ai choisi. Alors, je ne vais pas le dire parce que je ne vais pas m'arrêter. Mais je l'ai choisi pour beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas pour rien. On est prêt dans ce travail parce qu'on a des compétences. Vous voyez, ça dépend toujours de ce qu'on a à offrir. On est dans l'équipe de football française parce qu'on est parmi les 11 meilleurs joueurs, parmi 60 millions. Vous imaginez? Mais ici, Paul dit que avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Et il dit ça pour souligner que nous ne sommes pour rien dans le choix de Dieu. Il ne nous a pas choisis sur la base d'un mérite quelconque. D'ailleurs, dans les relations humaines, nous sommes choisis parce que nous sommes quelque chose. Ou alors parce que nous avons quelque chose. Ok? On est choisis parce que... Alors, d'ailleurs, il me semble que... il y a des élections bientôt. Le maire de la ville a sûrement déjà constitué une équipe de campagne. Est-ce qu'il vous a contacté pour être dans cette équipe-là? Ah, peut-être, mince. Mais je pense qu'il a choisi les gens qu'il estime être les plus compétentes. Les gens qui vont lui rapporter le plus grand nombre de votes. OK? Il les a choisis pour quelque chose, parce qu'ils sont quelque chose. Mais ce qu'on voit ici, regardez, si vous regardez toujours dans le verset 4, pas encore, au verset 4, il dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes saints et irréprochables. Pourquoi il nous a choisis? Pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est-à-dire qu'on vient devant lui sans rien, sans mérite, sans aucune prétention. Et il fait de nous ce que nous sommes désormais. Dans la suite, on voit que il nous a adoptés aussi. À l'époque, l'adoption était quelque chose de très courant. C'est le moment où un homme décide d'inclure dans sa famille un enfant qui n'est pas le sien. Et à partir de ce moment-là, cet enfant a les mêmes droits qu'un enfant légitime. Et c'est la réalité que Paul décrit ici. Nous avons été adoptés et désormais, nous sommes ses enfants. Et c'est parce que nous sommes adoptés que nous pouvons prier. Tout à l'heure, j'ai entendu « Père ». C'est parce que nous sommes adoptés que nous pouvons prier « Père ». Un jour, j'étais avec un ami musulman, une amie musulmane, et on déjeunait ensemble, et je lui ai dit, attends, avant de manger, je lui ai dit, donne-moi juste une seconde, je vais prier. Elle m'a proposé de prier à haute voix. J'ai dit, ok. Et quand j'ai prié, Père, merci pour ce repas. À la fin, elle m'a dit, elle était intriguée. Comment tu peux appeler Dieu Père? Nous pouvons appeler Dieu Père, pourquoi? Parce que nous sommes adoptés. Nous pouvons dire « Abba, Père ». Pourquoi? Parce que nous sommes adoptés. De la même façon que mes enfants, s'ils se font mal là-haut, s'ils descendent ici, ils n'iront voir personne ici. Ils viendront voir soit Grâce, soit moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont nos enfants. Et donc, c'est la même chose en Dieu. On peut toujours aller vers lui. Quand tout va bien et quand rien ne va. Pourquoi? Parce que nous sommes adoptés. Alors, ces deux premières bénédictions dont je viens de parler, il y a deux mots qu'on a lus là dans le texte, deux notions, l'élection et la prédestination. Si vous vous intéressez un petit peu à la théologie, et je sais qu'il y en a ici, alors vous savez que c'est deux sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive, l'élection et la prédestination. Parce que ça touche un petit peu à la question de la liberté de l'homme. Est-ce que c'est nous qui choisissons Dieu? Ou alors est-ce que c'est Dieu qui nous choisit? Ah, grande question. Mais on ne va pas ouvrir le débat là-dessus aujourd'hui. Ce que je veux, la chose essentielle à comprendre ici, c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de ces sujets-ci? Pourquoi il amène les sujets d'élection et de prédestination ici, dans ce texte-ci? En quoi ça nous concerne, nous, au refuge? La réponse est claire. Ce qu'il veut, c'est qu'on célèbre la gloire de sa grâce, la gloire de la grâce de Dieu. Il veut qu'on regarde ça, qu'on a été choisi sans avoir mérité, avant même que le monde n'existe, et qu'on n'essaie pas, enfin, même si on se pose des questions théologiques, mais qu'on se dise juste, ah, merci Seigneur de m'avoir choisi. Ce pourquoi Paul écrit ça, c'est pour qu'on bénisse le Seigneur. Maintenant, la deuxième chose qu'on voit, c'est que nous sommes bénis par le Fils. Et au verset 6, on voit que nous sommes rachetés. Vous voyez? En lui, par son sang. Comment on sait que c'est le Fils qui nous bénit ici? Parce qu'on dit par son sang. Ok? Qui est mort? Qui a donné son sang pour nous? Jésus, le Fils de Dieu. Et donc, on sait que là, maintenant, on parle du Fils. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. C'est un mot qui était utilisé dans le marché aux esclaves. Et le mot en lui-même signifie qu'on est, ça signifie libéré parce qu'un prix a été payé. Libéré parce qu'un prix a été payé. Et dans notre contexte, l'apôtre Paul dit que le prix qui a été payé, c'est le sang du Christ. Il a donné sa vie pour que nous soyons libres. C'est parce que Jésus est mort que nous pouvons être libérés de nos péchés. En fait, lorsque chaque péché crie et nous accuse, et lorsque le péché en nous crie coupable, le sang de Christ qui a coulé à la croix crie, payé, libre, racheté. Le Christ dit que par son sang, nous sommes rachetés. Et la dette est entièrement payée. Regardez, à la fin du verset 7, il est dit que Jésus a payé selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, il a largement pardonné. Il n'y a aucun péché qui résiste au sang du Christ. La plupart des religions qu'il y a dans le monde ont essayé d'imaginer des façons par lesquelles les hommes peuvent être pardonnés. Des fois, ils disent que certains vont dire que c'est en faisant des bonnes œuvres. D'autres encore vont dire que c'est en faisant des sacrifices. Et ici, si beaucoup de religions réfléchissent à ça, c'est parce que on sait que les hommes ont besoin du pardon. Des fois, la conscience est lourde, elle écrase, et l'homme réfléchit à comment être pardonné. Des fois, on se sent honteux, et quand on se regarde les uns les autres, on peut se dire, oh bon, ça va, je ne suis pas si mal que ça. Mais dès qu'on lève la tête et qu'on regarde à Dieu, on ne peut que se sentir honteux. Et ce que notre texte dit ici, c'est que nous sommes pardonnés, nos consciences sont libres, nous appartenons à Dieu par Christ. On raconte une histoire espagnole d'un père et d'un fils qui se sont embrouillés et qui se sont séparés. Le fils s'est enfui et le père, à un moment donné, est allé à sa recherche. Il a cherché vainement pendant plusieurs mois et à un moment donné, désespéré, il est allé placer un mot dans un journal à Madrid. Et sur l'annonce, il avait écrit « Cher Paco ». Son fils s'appelle Paco. Il a écrit « Cher Paco, retrouve-moi devant le journal samedi à midi. Ne t'inquiète pas, tout est pardonné. C'est moi ton père. Je t'aime. » Samedi à midi, devant la poste, il y a 800 Paco qui se sont retrouvés là. Ils cherchaient le pardon et l'amour de leur père. Est-ce qu'il y a des Paco ici ce matin? Combien de Paco il y a parmi nous ici ce matin? Qui cherchent l'amour de Dieu? Qui cherchent le pardon de Dieu? S'il y en a, si vous êtes là, s'il y en a ici qui ont la conscience lourde, qui veulent être pardonnés, vous êtes au bon endroit. Là où on prêche la grâce et le pardon de Dieu. Frères et sœurs, en Christ, Dieu peut vous pardonner de tous vos péchés selon la richesse de sa grâce. Et si vous voulez en savoir plus, venez me voir ou discuter avec Arnaud. Ensuite, on voit dans les versets 8 et 10 toujours que en Christ, nous avons été intégrés. Hein, vous voyez, il dit... Alors, non, avant. Et si, justement, vas-y. Est-ce que vous avez déjà reçu dans votre travail un email avec ce genre de mots confidentiels? Wow. Ben alors, si vous ne travaillez pas dans les endroits où on travaille avec les emails, est-ce que votre patron vous a déjà appelé dans le bureau pour vous parler de quelque chose qui concerne l'entreprise, mais quelque chose de stratégique que les autres auquel les autres n'ont pas accès? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Important. On se dit, ah oui, quand même, je suis important. Je suis dans le secret. Je suis dans la stratégie. Ah, c'est valorisant. OK? En fait, et tu peux y aller, c'est ce qu'on a dans cette bénédiction maintenant. Dieu nous a élus, il nous a adoptés, il nous a rachetés. Désormais, nous lui appartenons. Et Paul dit que nous ne sommes pas avec Dieu pour être au dernier plan là-bas. Non, Dieu, désormais, nous lui appartenons et il nous invite avec lui dans le centre de commandement. Ce matin, mon dernier fils voulait entrer dans le bureau là. Et je lui ai dit non parce qu'il y avait toutes mes choses. Et il m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, parce que c'est là-bas que j'organise les choses. Et à un moment donné, je l'ai fait entrer. Et j'ai dit, bon, alors tu es mon fils, tu as le droit d'entrer, donc viens. C'est exactement ce qui se passe ici. Dieu nous fait entrer dans la tour de contrôle, dans le poste de commandement, là où les choses se décident, là où... Et Paul nous dit qu'il nous fait entrer et il nous intègre au secret le plus important de notre monde. Frères et sœurs, savez-vous où va notre monde? Ha! Savez-vous quel est le but de Dieu pour notre monde? Je crois que c'est à cette question que travaillent les plus grands scientifiques du monde depuis des années. À réfléchir, à quoi rime ce monde-ci? Ça va vers quoi? Comment ce monde-ci s'organise? Et ce monde-ci, il va vers quoi? C'est sûrement la question qui a consommé... Ah, je te remercie, mon frère. C'est sûrement la question qui a mobilisé des milliards et des milliards d'euros. Parce qu'on veut savoir où va le monde. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Regardez, versets 9 et 10. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. » Et c'est quoi ce projet? Vers quoi va le monde? À savoir, tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Voilà la trajectoire du monde. Si quelqu'un vous pose la question, si vous-même vous vous posiez la question, vers quoi va le monde? Voici la réponse. Dieu, le monde va vers un moment où tout ce qu'il y a au ciel et ce qu'il y a sur la terre sera sous l'autorité d'un seul chef. Qui? Le Christ. Et nous sommes au courant. Nous avons le secret. Est-ce qu'on doit faire chut? Pas du tout. On doit le dire. nous savons vers quoi va le monde. Ce n'est pas une question ni un souhait, c'est une affirmation claire, c'est un engagement du Seigneur. L'Église est bénie, l'Église, le refuge est béni, même dans sa faiblesse à vue humaine. Elle est bénie parce qu'elle est, elle est dans le secret. Mais alors, qu'est-ce que c'est censé changer pour nous de connaître le plan? Qu'est-ce que c'est censé changer pour nous? En fait, moi, il a toujours été clair. J'ai souvent pris de grandes décisions dans ma vie par rapport à quelque chose. Quand je me suis converti, quand j'ai répondu à l'appel du Seigneur, je me suis demandé quel est le but de ce monde? Parce que si le but du monde entier, c'est qu'il y ait des bonbons partout sur la terre, alors une vie réussie, c'est quoi? Ta vie sera réussie si chaque jour tu marches avec les poches pleines de bonbons et tu distribues et tu donnes partout. Parce que c'est ça, si le monde va vers ça, alors il faut faire ça. Et si tu ne fais pas ça, alors ta vie est gâchée. Tu peux faire autre chose de ta vie, mais elle ne sert à rien parce qu'elle n'entre pas dans le projet global du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, regardez. Puisque le projet absolu, la destination finale, c'est que tout soit rassemblé sous l'autorité de Jésus, alors si vous êtes, alors si vous souhaitez que votre vie ait un sens, vous devez vivre. Pourquoi? Pour emmener le maximum de personnes sous l'autorité du Christ. Parce qu'en dehors de ça, vous pouvez choisir de vivre autre chose. Mais je vous garantis que ce serait une vie gâchée et perdue. En apparence, peut-être belle et enrichie dans cette vie, mais de façon ultime et absolue, ce serait un gâchis. Et pourtant, si vous entrez vous-même déjà sous l'autorité du Christ et que vous emmenez des gens sous l'autorité du Christ, alors vous êtes en train de vivre une vie qui a du sens. Si tu as des idées de comment on peut faire ça ici au refuge, comment on peut continuer d'amener les gens à Jésus, alors n'hésite pas à parler de ça avec moi. Et à la fin du culte. Le troisième point, la troisième bénédiction. Nous sommes bénis par l'Esprit de Dieu, au verset 13 et 14. Au premier siècle, et la bénédiction dont il est question, c'est que nous sommes marqués. Dans d'autres versions, c'est que nous avons été scellés. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Ah. À l'époque, on marquait tout ce qui appartenait à quelqu'un, il le marquait au fer rouge. Les esclaves, il est marqué au fer rouge. Le bétail, il est marqué au fer rouge. Et donc ici, il est dit que puisque nous appartenons à Dieu, il nous a marqués. Comme pour dire que nous sommes quoi? Ses enfants. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et comment on sait qu'on n'appartient pas au monde? Parce qu'on est marqué par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est donné un peu comme... les arts en business, comme ça qu'on dit, les arts, comme une sorte d'avance. Vous savez, quand on veut louer une salle, on donne une avance et on attend que la fête soit passée et on paye la totalité. Et c'est un peu ce qu'on a ici. Le Saint-Esprit, c'est une avance. Le Seigneur nous donne une avance de quoi? Une avance de ce pourquoi Dieu nous a choisis. Vous vous souvenez au verset 4? Pourquoi on a été choisi? Pour être saint et sans reproche. Aujourd'hui déjà dans cette vie, le Saint-Esprit nous emmène dans la sainteté, dans la sanctification. Vous voyez? Et ce qu'il promet, c'est que nous allons marcher dans cette sanctification-là. Et un jour, quand le Seigneur reviendra, nous serons parfaitement saints. Ça sera le moment où le solde du compte arrive. Et c'est en ça que nous sommes bénis. Maintenant, frères et sœurs, chacun de nous peut s'estimer béni, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Un compte bancaire rouge, une situation difficile avec le conjoint ou avec les enfants, peu importe, le stress au travail, une église qui se réunit dans un salon et qui est une vingtaine ou une trentaine alors qu'il y a 60 000 personnes dans la ville, nous sommes bénis parce que nos bénédictions sont données par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit et qu'elles sont spirituelles. On va s'arrêter là et on va prendre la scène maintenant.